Guy de Maupassant, mes 25 jours. Je venais de prendre possession de ma chambre d'hôtel, case étroite entre deux cloisons de papier qui laissent passer tous les bruits des voisins. Et je commençais à ranger dans l'armoire à glace mes vêtements et mon linge quand j'ouvris le tiroir qui se trouve au milieu du meuble. J'aperçus aussitôt un cahier de papier roulé. L'ayant déplié, je l'ouvris et je lus ce titre. Mes 25 jours. C'était le journal d'un baigneur, du dernier occupant de ma cabine, oublié à l'heure du départ. Ces notes peuvent être de quelque intérêt pour les gens sages et bien portants qui ne quittent jamais leur demeure. C'est pour eux que je les transcris ici, sans en changer une lettre. Châtel-Guyon, 15 juillet. Au premier coup d'œil, il n'est pas gai ce pays. Donc je vais y passer 25 jours pour soigner mon foie, mon estomac et maigrir un peu. Les 25 jours d'un baigneur ressemblent beaucoup aux 28 jours d'un réserviste. Ils ne sont faits que de corvées, de dures corvées. Aujourd'hui, rien encore, je me suis installé, j'ai fait connaissance avec les lieux et avec le médecin. Châtel-Guyon se compose d'un ruisseau où coule de l'eau jaune, entre plusieurs mamelons, où sont plantés un casino, des maisons et des croix de pierre. Au bord du ruisseau, au fond du vallon, on voit un bâtiment carré entouré d'un petit jardin. C'est l'établissement de bains. Les gens tristes errent autour de cette bâtisse, les malades. Un grand silence règne dans les allées ombragées d'arbres, car ce n'est pas ici une station de plaisir, mais une vraie station de santé. On s'y soigne avec conviction, puis on y guérit, paraît-il. Des gens compétents affirment même que les sources minérales y font de vrais miracles. Cependant, aucun ex-voto n'est suspendu autour du bureau du caissier. De temps en temps, un monsieur ou une dame s'approche d'un kiosque coiffé d'ardoises qui abrite une femme de mine souriante et douce et une source qui bouillonne dans un vasque de ciment. Pas un mot n'est échangé entre le malade et la gardienne de l'eau guérisseuse. Celle-ci tend à l'arrivant un petit verre où tremblotent des bulles d'air dans le liquide transparent. L'autre boit et s'éloigne d'un pas grave pour reprendre sous les arbres sa promenade interrompue. Aucun bruit dans ce petit parc, aucun souffle d'air dans les feuilles, aucune voix ne passe en silence. On devrait écrire à l'entrée du pays « Ici on ne rit plus, on se soigne ». Les gens qui causent ressemblent à des muets qui ouvriraient la bouche pour simuler des sons, tant ils ont peur de laisser s'échapper leur voix. Dans l'hôtel, même silence. C'est un grand hôtel où l'on dîne avec gravité entre gens comme il faut, qui n'ont rien à se dire. Leur manière révèle le savoir-vivre et leur visage reflète la conviction d'une supériorité dont il serait peut-être difficile à quelques-uns de donner des preuves effectives. À 2 heures, je fais l'ascension du casino, petite cabane de bois perchée sur un monticule où l'on grimpe par des sentiers de chèvres. Mais la vue de là-haut est admirable. Châtel-Guyon se trouve placé dans un vallon très étroit, juste entre la plaine et la montagne. J'aperçois donc à gauche les premières grandes vagues des monts Auvergnats, couverts de bois, et montrant par places de grandes taches grises, leurs durs ossements de lave, car nous sommes au pays des anciens volcans. À droite, par l'étroite enchancrure du vallon, Jeti couvre une plaine infinie comme la mer, noyée dans une brume bleuâtre qui laisse seulement deviner les villages, les villes, les champs jaunes de blé mûr et les carrés verts des prairies ombragées de pommiers. C'est la Limagne, immense et plate, toujours enveloppée dans un léger voile de vapeur. Le soir est venu, et maintenant, après avoir dîné solitaire, j'écris ces lignes auprès de ma fenêtre ouverte. J'entends là-bas, en face, le petit orchestre du casino qui joue des airs comme un oiseau fou qui chanterait tout seul dans le désert. Un chien aboie de temps en temps. Ce grand calme fait du bien. Bonsoir. 16 juillet. Rien, j'ai pris un bain, plus une douche. J'ai bu 3 verres d'eau et j'ai marché dans les allées du parc un quart d'heure entre chaque verre, plus une demi-heure après le dernier. J'ai commencé mes 25 jours. 17 juillet. Remarquez deux jolies femmes mystérieuses qui prennent leur bain et leur repas après tout le monde. 18 juillet, rien. 19 juillet, revu les deux jolies femmes. Elles ont du chic et un petit air, je ne sais quoi, qui me plaît beaucoup. 20 juillet, longue promenade dans un charmant vallon boisé jusqu'à l'ermitage de Sans Souci. Ce pays est délicieux, bien que triste, mais si calme, si doux, si vert. On rencontre par les chemins de montagne les voitures étroites chargées de foin que deux vaches traînent d'un pas lent ou retiennent dans les descentes avec un grand effroi de leurs têtes liées ensemble. Un homme coiffé d'un grand chapeau noir les dirige avec une mince baguette en les touchant au flanc ou sur le front. Et souvent d'un simple geste, d'un geste énergique et grave, ils les arrêtent brusquement quand la charge trop lourde précipite leur marche dans les descentes trop dures. L'air est bon à boire dans ces vallons. Et s'il fait très chaud, la poussière porte une légère et vague odeur de vanille et d'étable. Car tant de vaches passent sur ces routes qu'elles y laissent partout un peu d'elles. Et cette odeur est un parfum, alors qu'elle serait une puanteur venue d'autres animaux. 21 juillet, excursion au vallon d'Enval. C'est une gorge étroite, enfermée en des rochers superbes, au pied même de la montagne. Un ruisseau coule au milieu des rocs amoncelés. Comme j'arrivais au fond de ce ravin, j'entendis des voix de femmes. J'aperçus bientôt les deux dames mystérieuses de mon hôtel qui causaient assises sur une pierre. L'occasion me parut bonne et je me présentai sans hésitation. Mes ouvertures furent reçues sans embarras. Nous avons fait route ensemble pour revenir et nous avons parlé de Paris. Elles connaissent, paraît-il, beaucoup de gens que je connais aussi. Qui est-ce? Je les reverrai demain. Rien de plus amusant que ces rencontres-là. 22 juillet. Journée passée presque entière avec les deux inconnues. Elles ont, ma foi, fort jolies, l'une brune et l'autre blonde. Elles se disent veuves. Je leur ai proposé de les conduire à Royat demain et elles ont accepté. Oh, Châtel-Guyot est moins triste que je n'avais pensé en arrivant. 23 juillet. Journée passée à Royat. Royat est un pâté d'hôtel au fond d'une vallée à la porte de Clermont-Ferrand. Beaucoup de monde. Grand parc plein de mouvements. Superbe vue du pays de Dôme aperçue au bout d'une perspective de vallon. On s'occupe beaucoup de mes compagnes, ce qui me flatte. L'homme qui escorte une jolie femme se croit toujours coiffé d'une auréole. À plus forte raison, celui qui passe entre deux jolies femmes. Rien ne plaît autant que de dîner dans un restaurant bien fréquenté avec une amie que tout le monde regarde. Et rien d'ailleurs n'est plus propre à poser un homme dans l'estime de ses voisins. Aller au bois, traîné par une rosse, ou sortir sur le boulevard escorté par un laidron, sont les deux accidents les plus humiliants qui puissent frapper un cœur délicat, préoccupé de l'opinion des autres. De tous les luxes, la femme le plus rare et le plus distingué. Elle est celui qui coûte le plus cher et qu'on nous envie le plus. Elle est donc aussi celui que nous devons aimer le mieux, à étaler sous les yeux jaloux du public. Montrer au monde une jolie femme à son bras, c'est d'exciter d'un seul coup toutes les jalousies. C'est dire, voyez, je suis riche puisque je possède cet objet rare et coûteux, J'ai du goût, puisque j'ai su trouver cette perle. Peut-être même en suis-je aimé, à moins que je ne sois trompé par elle, ce qui pourrait encore que d'autres aussi la jugent charmante. Mais quelle honte que de promener par la ville une femme laide! Et que de choses humiliantes cela laisse entendre. En principe, on la suppose votre femme légitime, car comment admettre qu'on possède une vilaine maîtresse? Une vraie femme peut être disgracieuse, mais sa laideur signifie alors mille choses désagréables pour vous. On vous croit d'abord notaire ou magistrat, ces deux professions ayant le monopole des époux grotesques et bien dotés. Or, n'est-ce point pénible pour un homme? Et puis cela semble crier au public que vous avez l'odieux courage et même l'obligation légale de caresser cette face ridicule et ce corps mal bâti, et que vous aurez sans doute l'impudeur de rendre mère cet être peu désirable, ce qui est bien le comble du ridicule. 24 juillet. Oh, je ne quitte plus les deux jeunes veuves inconnues que je commence à bien connaître. Ce pays est délicieux et notre hôtel excellent. Bonne saison, le traitement me fait un bien infini. 25 juillet. Promenade en landau au lac de Tasna. Partie exquise et inattendue, décidée en déjeunant. Départ brusque en sortant de table. Après une longue route dans les montagnes, nous apercevons soudain un admirable petit lac, tout rond, tout bleu, clair comme du verre, et gîté dans le fond d'un ancien cratère. Un côté de cette cuve immense est aride, l'autre boisée. Au milieu des arbres, une maisonnette où dort un homme aimable et spirituel, un sage qui passe ses jours dans ce lieu virgilien. Il nous ouvre sa demeure, une idée me vient et je crie: Et si on se baignait? Oui, dit-on, mais des costumes. Bon, nous sommes au désert et on se baigne. Si j'étais poète, comme je dirais, cette vision inoubliable des corps jeunes et nus dans la transparence de l'eau. La côte inclinée et haute enferme le lac immobile, luisant et rond comme une pièce d'argent. Le soleil y verse en pluie sa lumière chaude, et le long des roches, la chair blonde glisse dans l'onde presque invisible, où les nageuses semblent suspendues. Sur le sable du fond, on voit passer l'ombre de leurs mouvements. 26 juillet. Quelques personnes semblent voir d'un œil choqué et mécontent mon intimité rapide avec les deux jeunes veuves. Il existe donc des gens ainsi constitués qui s'imaginent la vie faite pour s'embêter. Mais tout ce qui paraît être amusement devient aussitôt une faute de savoir-vivre ou de morale. Pour eux, le devoir a des règles inflexibles et mortellement tristes. Je leur ferai observer avec humilité que le devoir n'est pas le même pour les Mormons, les Arabes, les Zoulous, les Turcs, les Anglais ou les Français, et qu'il se trouve des gens fort honnêtes chez tous ces peuples. Je citerai un seul exemple. Au point de vue des femmes, le devoir anglais est fixé à 9 ans, tandis que le devoir français ne commence qu'à 15 ans. Quant à moi, je prends un peu de devoir de chaque peuple et j'en fais un tout comparable à la morale du saint roi Salomon. 27 juillet. Bonne nouvelle, j'ai maigri de 620 grammes. Excellente cette eau de Châtel-Guyon. J'emmène les veuves dîner à Riom. Triste ville dont l'anagramme constitue un fâcheux voisinage pour des sources guérisseuses. Riom. Mori. 28 juillet. Patatras. Mes deux veuves ont reçu la visite de deux messieurs qui viennent les chercher. Deux veuves, sans doute. Elles partent ce soir. Elles m'ont écrit sur un petit papier. 29 juillet. Seul. Pfum. Longue excursion à pied à l'ancien cratère de la Nachère. Vue superbe. 30 juillet, rien, je fais le traitement. 31 juillet, dito. Dit-on. Ce joli pays est plein de ruisseaux infects. Je signale à la municipalité si négligente l'abominable cloaque qui empoisonne la route en face du grand hôtel. On y jette tous les débris de cuisine de cet établissement. C'est là un bon foyer de choléra. 1er août, rien, le traitement. 2 août, admirable promenade à Châteauneuf, station des rhumatisants où tout le monde boite. Rien de plus drôle que cette population de béquillards. 3 août, rien, le traitement. 4 août, ditto, ditto. 5 août, ditto, ditto. 6 août, désespoir, je viens de me peser, j'ai engraissé de 310 grammes, mais alors. 7 août, 70 km en voiture dans la montagne. Je ne dirai pas le nom du pays par respect pour ces femmes. On m'avait indiqué cette excursion comme belle et rarement faite. Après 4 heures de chemin, j'arrive à un village assez joli, au bord d'une rivière, au milieu d'un admirable bois de noyers. Je n'avais pas encore vu en Auvergne une forêt de noyers aussi importante. Elle constitue d'ailleurs toute la richesse du pays, car elle est plantée sur le communal. Ce communal, autrefois, n'était qu'une côte nue couverte de broussailles. Les autorités essayèrent en vain de faire cultiver, mais c'est à peine s'il servait à nourrir quelques moutons. C'est aujourd'hui un superbe bois, grâce aux femmes, et il porte un nom bizarre, on le nomme « les péchés de Monsieur le curé ». Or, il faut dire que les femmes de la montagne ont la réputation d'être légères, plus légères que dans la plaine. Un garçon qui les rencontre les doit au moins un baiser. Et s'il ne prend pas plus, il n'est qu'un sot. La pensée juste, cette manière de voir, est la seule logique et raisonnable. Du moment que la femme, qu'elle soit de la ville ou des champs, a pour mission naturelle de plaire à l'homme, l'homme doit toujours lui prouver qu'elle lui plaît. S'il s'abstient de toute démonstration, cela signifie donc qu'il la trouve laide. C'est presque injurieux pour elle. Oh, si j'étais femme, je ne recevrais pas une seconde fois un homme qui ne m'aurait point manqué de respect à notre première rencontre, car j'estimerais qu'il a manqué d'égard pour ma beauté, pour mon charme et pour ma qualité de femme. Donc les garçons du village X prouvaient souvent aux femmes du pays qu'ils les trouvaient de leur goût, et le curé ne pouvait pas parvenir à empêcher ces démonstrations aussi galantes que naturelles, et il résolut de les utiliser au profit de la prospérité générale. Il imposa donc comme pénitence à toute femme qui avait failli de planter un noyer sur le communal. Et l'on vit chaque nuit des lanternes errer comme des feux follets sur la colline, car les coupables ne tenaient guère à faire en plein jour leur pénitence. En 2 ans, il n'y eut plus de place sur les terrains appartenant au village. On en compte aujourd'hui plus de 3 000 arbres magnifiques autour du clocher qui sonne les offices dans leur feuillage. Ce sont là les péchés de Monsieur le curé. Puisqu'on cherche tant les moyens de reboiser la France, l'administration des forêts ne pourrait-elle s'entendre avec le clergé pour employer le procédé si simple qu'inventa cet humble curé? 7 août, traitement. 8 août, je fais mes mal et mes adieux au charmant petit pays tranquille et silencieux, à la montagne verte, au vallon calme, au casino désert d'où l'on voit, toujours voilé de sa brume légère et bleuâtre, l'immense plaine de la Limagne. Je partirai demain matin. Le manuscrit s'arrêtait là. Je n'y veux rien ajouter. Mes impressions sur le pays n'ayant pas été tout à fait les mêmes que celles de mon prédécesseur. Car je n'y ai pas trouvé les deux veuves. 25 août 1885.